Le mois dernier, la mairie de Paris a refusé aux opérateurs l'installation de 32 antennes relais. L'association Romain des Toits se bat depuis 2004 pour une baisse de la puissance des ondes émises par ces antennes relais, pour une sensibilisation au risque de ces ondes sur notre organisme. Qu'en est-il de la réglementation ? À quel risque sanitaire sommes-nous exposés sans le savoir ? Que dit la communauté scientifique à ce sujet ? Nous recevrons Étienne Sandrier, qui est le porte-parole de l'association Romain des Toits, pour faire le point sur tous ces sujets. Et nous recevrons sans ondes, sans électricité, entièrement acoustique, elle est à la porte, il faudra aller lui ouvrir la porte, Lily Ster, qui est une chanteuse, jeune chanteuse parisienne, donc que nous écouterons comme chaque troisième jeudi dans cette émission. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, c'est l'émission Zoom Écologie, le troisième jeudi, Zoom Écologie, c'est parti.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs, de 20h30 à 21h30, sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Étienne.
Bonsoir.
Je suis comme d'habitude avec Cyril à la technique, avec Sophie qui est partie ouvrir la porte à Lily Ster, et nous sommes comme chaque jeudi, chaque troisième jeudi, avec Laurence qui commence cette émission par sa rubrique tant attendue par nos auditeurs. Laurence, on t'écoute.
Merci Alexandre. Donc une nouvelle petite chronique transnationale sur un fleuron français, le MOX. On en parle beaucoup en ce moment, trois petites lettres qui mettent le feu aux poudres. Le MOX, c'est quoi ? Du combustible nucléaire usé et retraité. On en extrait 1% de plutonium, le reste, on le stocke dans des piscines. À La Hague, il y a comme ça 9600 tonnes de combustible irradié stocké. Oui, le MOX, c'était la solution recyclage d'Areva, les champions du développement durable. En fait, le MOX rend le pilotage des réacteurs plus complexe, donc plus risqué. Il coûte beaucoup plus cher que le combustible classique et engendre des déchets beaucoup plus radioactifs. La faible économie d'uranium réalisé ne compense donc ni ces risques, ni ses coûts. Aujourd'hui, seule la France vend ce type de combustible, EDF, est son principal client. Il faut dire qu'Areva en vendait aux Japonais, mais depuis Fukushima, le nucléaire est moins à la mode là-bas. On se demande bien pourquoi. En 2009, des militants écologistes avaient d'ailleurs cherché à bloquer un convoi de MOX au départ de Cherbourg et à destination du Japon. À l'époque, Greenpeace disait « En un peu plus de 2 mois, c'est 1,8 tonnes de plutonium qui va traverser la planète. » Une quantité permettant de fabriquer 225 bombes nucléaires. C'est pas un super truc transnational, ça ? Aujourd'hui, en France, c'est le syndrome Minitel. Hein. On s'en souvient, quand tout le monde développait la toile, la France s'accrochait au Minitel. C'est un petit peu la même chose avec le nucléaire, sauf que c'est quand même vachement plus dangereux qu'une petite boîte Minitel, a priori. Enfin, il y a des gens qui le disent.
On demandera à Étienne ce qu'il pense du Minitel.
Voilà. Aujourd'hui, donc, pas question d'abandonner la filière nucléaire, en particulier l'EPR, même si tout montre que c'est obsolète, coûteux, dangereux. Plutôt que baisser notre consommation d'énergie, d'accompagner les salariés du nucléaire vers la reconversion, de créer des emplois sur des filières environnementales, on continue. Alors, pour conclure, je demanderais juste, mais de qui se moque-t-on ? Je te le demande, Alexandre.
J'ai une liste trop longue là pour répondre à ta question, Laurence, mais merci pour ta rubrique. Donc aujourd'hui, nous recevons Étienne Sandrier. Étienne, bonjour, rebonjour.
Rebonjour.
Étienne, vous êtes le porte-parole d'une association qui s'appelle Robin des Toits, et dont la naissance est datée de 2004, assez récente finalement.
Oui, enfin, les fondateurs, ça fait 11 ans maintenant qu'ils sont sur ce petit sujet.
Et votre prise de conscience, d'après ce qu'on lit dans les articles qu'on a devant nous, c'est l'installation d'antennes relais en face de l'école de vos enfants.
Oui, alors comme c'était il y a 11 ans, à l'époque c'était la maternelle. Depuis, mes enfants ont eu un parcours scolaire merveilleux, donc ils sont extirpés de la maternelle. Mais effectivement, c'était ça le point de départ. On avait collé, enfin ils avaient collé, en l'occurrence Bouygues Télécom, une antenne relais en face de l'école de mes enfants.
Et à l'époque, vous n'étiez pas du tout un spécialiste
Pas du tout, je suis artiste peintre, donc j'étais complètement en dehors de tout ça. Et puis je suis tombé sur un article par hasard, qui montrait, en fait, j'avais un minimum de culture environnementale. J'étais pas militant, mais j'avais déjà vu un tout petit peu ce qui s'était passé sur d'autres problèmes. Et là, on avait tous les ingrédients, parce qu'en fait, dans ces histoires de problèmes environnementaux, on a toujours, toujours, toujours le même scénario. On dirait une mauvaise production hollywoodienne. C'est-à-dire, en gros, il y a une communauté scientifique, on en reparlera, mais avec des scientifiques qui sont un tout petit peu près de l'industrie. Mediator, par exemple, nous rappelle que voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Il y avait le problème des assurances. Les assurances qui commençaient à se désengager. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, c'était en 2000. Et c'était le moment où les plus grandes compagnies d'assurance mondiale se sont désengagées en trouvant que c'était trop risqué. Pour mémoire, dans l'histoire de l'amiante, c'est en 1919 que...
Quand les assurances se désengagent, ça veut dire que concrètement, elles décident de plus couvrir les risques.
Voilà, parce que...
liés aux ondes...
Voilà, les assurances se désengagent. Dans tous les problèmes environnementaux, on voit ça. Il y a un moment donné où les assurances, qui ont tout intérêt à vous faire payer des primes sur des trucs absolument pas risqués, quand c'est trop risqué, c'est quand elles risquent de perdre des plumes sur le plan financier, voire même carrément se faire casser les reins. Et c'est le cas, il y a des rapports qui sont sortis internes aux assurances là-dessus. Elle se désengage. Et donc, je prenais le rapport avec... je faisais le lien avec l'histoire de l'amiante, où, à partir de 1919, vous rappelez que c'est en 1996 que l'amiante est interdite, les compagnies d'assurance britanniques et américaines cessent de couvrir le risque sanitaire. Pour elles, il y a déjà suffisamment d'éléments, c'est dangereux, elles cessent de couvrir. Dans la téléphonie mobile, ça arrive en 2000.
Et donc en 2075, vous espérez une réglementation un
non, peu... non, parce qu'on bénéficie, entre beaucoup de guillemets, de la vitesse acquise par les scandales précédents. Mais en revanche, on a tous les éléments du scandale sanitaire, effectivement. Donc des victimes, des pouvoirs publics ultra ramollo qui mettent des normes, on y reviendra, qui permettent à l'industriel de faire tout ce qu'il veut. Et puis des victimes au milieu. Et donc là, pour revenir au problème de l'assurance, il y a un an et un mois, 13 mois, la Lloyd's, qui est une de ses principales compagnies d'assurance, a sorti un rapport qu'elle a rendu public, qui n'a pas défrayé la chronique, on a fait ce qu'on a pu, et qui établit un lien, un parallèle plutôt, entre le dossier de l'amiante et celui de la téléphonie mobile. Ce qui illustre un peu, parce que tous les gens qui découvrent un problème... Non, un parallèle. C'est la même façon... C'est le même développement, les mêmes problèmes. Et pour tous les gens qui ne savent pas trop, qui disent « Ouais, alors il y a des gens, ils sont des écolos un peu énervés, qui pensent que le principe de précaution, etc., les problèmes sanitaires, d'un côté, de l'autre côté des industriels, et qui disent « On ne sait pas qui est-ce qui a raison. Ben » voilà, il faut toujours regarder ce que font les assurances. L'histoire des OGM, par exemple, les assurances ne couvrent pas. Le plomb, les assurances ne couvrent pas. Voilà, donc chaque fois que c'est dangereux,
ça, c'est les assurances, surveillance,
c'est un élément impartial, on va dire, qui permet de se faire une idée et de se dire ça va pas du tout.
D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde, pour commencer par le début? Est-ce que c'est les ondes, parce qu'on a des ondes radiophoniques, nous on émet une radio, donc il y a aussi des ondes radiophoniques qui circulent
dans l'espace. Les ondes de la radio sont des ondes qui traversent les organismes vivants. On est transparent pour elles, il n'y a pas de souci. Enfin, sauf à habiter juste contre l'antenne, mais globalement, c'est pas ça qu'on fait.
D'accord.
Donc là, dans le cas d'espèce, il faut comprendre que les ondes électromagnétique, tout est onde électromagnétique. La lumière du soleil, c'est une onde électromagnétique. Le vivant fonctionne grâce aux ondes électromagnétiques. Et donc, au niveau de nos organismes, tous les échanges biochimiques sont conduits par des émissions électromagnétiques. Il se trouve que certaines fréquences, certaines ondes électromagnétiques peuvent interférer avec ce fonctionnement. Et pas de chance...
On a besoin de certaines ondes, mais pas d'autres, quoi, c'est ça ?
Ben, y en a certaines qui vont perturber notre fonctionnement à des niveaux tout petits. Mais pas de chance, les ondes de la téléphonie mobile et celles des technologies sans fil sont arrêtées par les tissus humains. Et en plus, il y a un mode d'émission un peu particulier. On parle d'ondes pulsées, c'est-à-dire des ondes discontinues. Les ondes de la radio, les ondes de la télé sont des ondes continues qui nous traversent. Celles de la téléphonie mobile sont arrêtées par les tissus vivants. Et avec ce phénomène de pulsation, ce phénomène d'ondes discontinues, ça va rentrer encore un peu mieux et perturber le fonctionnement de l'organisme. Alors ce fonctionnement est perturbé à quatre niveaux. Il y a la perte d'étanchéité de la barrière hémato-encéphalique. Ça, ça fait très, très technique.
Bravo.
C'est-à-dire que...
Ça fait peur.
La barrière hémato-encéphalique, c'est ça. C'est-à-dire que...
Là, voilà. Pour rebondir sur une question, ça va être balèze, hein, Sophie.
Non, mais il y a le... Il y a des éléments qui sont toxiques pour le cerveau, qui se baladent dans le sang, qui ne posent aucun problème tant qu'ils restent dans le sang, et qu'on appelle la barrière sang-cerveau. Et sous l'action de l'exposition à ces ondes électromagnétiques de la téléphonie mobile, du Wi-Fi, du téléphone sans fil que tout le monde a chez soi, on va perdre cette étanchéité, et donc il y a des éléments toxiques qui peuvent rentrer à l'intérieur du cerveau, comme l'albumine par exemple. C'est le premier élément. Deuxième élément, ça perturbe les communications cellulaires au niveau des membranes des cellules, tant sur le plan respiratoire que sur le plan nutritif. Après, on arrive sur des trucs lourds. Ça casse l'ADN. Plusieurs études montrent que ça casse l'ADN. Ça, c'est un processus médical identifié cancérigène. Et puis, ça nous perturbe le fonctionnement normal d'une hormone très importante, qui s'appelle la mélatonine, qui est une des hormones, des principales régulatrices des rythmes biologiques, notamment ceux du sommeil, et qui également nous permet de lutter contre les agressions cancérigènes. Donc, ça intervient à ces quatre niveaux-là. Alors maintenant, on entend que, oui, alors la communauté scientifique débat, qu'on n'est pas sûr, etc. Alors ça, c'est un vieux truc. En gros, ça se passe comme ça. Chaque fois que vous aviez une étude qui montrait un effet sur la santé, hop, il y avait une autre étude financée par l'industrie qui prouvait le contraire.
D'accord.
Là, il n'y a pas très longtemps, est parue à la une du Figaro une étude danoise qui disculpait le portable comme cancérigène possible au niveau des tumeurs du cerveau. C'est-à-dire que, au printemps dernier, l'OMS a mis les radiofréquences, donc ce qui était mis par les antennes relais, par les portables, par le Wi-Fi, etc., dans la catégorie 2B, c'est-à-dire cancérigène possible. Le plomb s'y trouve, les vapeurs de diesel s'y trouvent, il y a déjà des politiques publiques de prévention là-dessus, rien sur la téléphonie mobile. Et donc là, hop, opportunément, cette étude danoise arrive et dit « le portable, disculpez, le Figaro met ça à la une ». Simplement, cette étude danoise, elle porte sur des utilisateurs pendant 7 ans. Pour qu'on développe une tumeur du cerveau, il faut 15 à 30 ans.
D'accord.
Donc cette étude, c'était obligatoire, son protocole ne permettait pas qu'elle montre le côté cancérigène du portable. Donc c'était une étude qui est faite pour disculper le portable, c'est en rapport avec l'industrie bien entendu, donc on a publié la réfutation de cette étude, on a demandé au Figaro de le mettre à la une, allez savoir pourquoi, ça n'a jamais été mis à la une. Mais pourtant, la réalité c'est que oui, c'est prouvé, et qu'on a un faux débat scientifique en cours, qui est largement financé par l'industrie et par différents intérêts qui sont liés à la téléphonie mobile.
Malheureusement, c'est une configuration qu'on retrouve sur d'autres sujets, comme par exemple les perturbateurs endocriniens, l'aspartame, etc. Où en fait, les intérêts industriels viennent contrer le principe de précaution et les intérêts des populations.
Alors voilà, la façon dont ça se passe, effectivement, on l'a déjà vu sur l'histoire du tabac, tout le monde le sait. Maintenant, c'est prouvé, plus personne ne conteste, mais pendant très longtemps, vous aviez des études qui montraient que ça provoquait le cancer du poumon, et puis hop, il y avait des études financées par l'industrie qui disaient ben non. Et interminablement comme ça. Et donc là, on a des experts qui sont reconnus par les pouvoirs publics, qui sont en lien avec l'industrie, et qui sont là pour ralentir la connaissance scientifique. C'est-à-dire que ces gens-là nous disent bon, alors il y a une étude qui montre un danger, alors on va la répliquer. Et tant qu'on ne l'a pas répliqué, tant qu'on n'a pas le résultat, on ne tient pas compte du premier résultat. Ça, ce n'est pas normal. Étant donné le nombre d'utilisateurs, oui. Dès qu'on a une étude, on en aurait seulement une. Mais c'est un sujet extrêmement étudié. Il y a plus de 1500 études. Il y a plus de 1500 études qui pointent des dangers liés à la téléphonie mobile. Même si c'était un tout petit danger, il y a 5 milliards d'utilisateurs. Donc même un tout petit danger deviendrait un danger gigantesque. En l'occurrence, c'est des gros dangers qu'on court avec cette technologie telle qu'elle. Il faut réglementer et on peut le faire pour la rendre compatible avec la santé publique. Mais donc là, on a des gens qui nous disent bah, « Tant qu'on n'a pas répliqué, on ne tient pas compte du premier résultat. » Et quand en plus le financement est biaisé, c'est-à-dire qu'en justice, par exemple, on n'accepte pas que les gens soient jugés partis. Si vous avez un procès avec quelqu'un, vous n'acceptez pas que le juge ou le procureur ait un lien avec la personne accusée. En science, dans les sciences qui concernent l'industrie, c'est-à-dire des intérêts économiques, Ce phénomène de juge est parti et en permanence là. On l'a vu là récemment dans le Mediator, on nous a expliqué que c'est un dysfonctionnement. C'est un dysfonctionnement, c'est pas vrai. Il est tellement récurrent qu'il est devenu systémique. Donc on est dans la même configuration, effectivement, dans l'histoire de la téléphonie mobile.
C'est vrai que le scandale du Mediator a permis de mettre au jour vraiment des conflits d'intérêts. On peut espérer que ça serve aussi pour éviter des conflits d'intérêts sur d'autres sujets.
Alors oui, après ça, on passe au niveau politique. Et par exemple, nous avons à l'heure actuelle une ministre de l'écologie, Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, qui, lorsqu'elle était simple députée en 2005, était tout à fait d'accord avec nous. Elle demandait la réduction de l'exposition du public, le fameux 0,6 vol par mètre. Elle demandait l'indépendance des experts. Elle appelait au principe de précaution. Puis depuis qu'elle est devenue ministre, elle est frappée d'amnésie. Donc moi, je l'ai rencontrée fréquemment au Grenelle des Ondes. À chaque fois, je lui rappelle, j'ai droit à un sourire embarrassé et zéro réponse. Donc on a aussi un problème de politiques qui sont dans la main du lobby, qui n'osent pas faire de peine au lobby. Parce que le fond de la question, hein, c'est toujours ça d'ailleurs dans ces histoires environnementales, c'est que si on réglemente de manière à protéger réellement la santé publique, eh ben, la technologie devient un poil moins rentable pour l'industrie. Voilà.
D'accord. Donc l'OMS, par contre, a émis un avis très clair. C'était quand, ça, l'avis de l'OMS ?
Alors, c'était en mai. Hein. Ça fait 10 ans que l'OMS avait une position qu'on va qualifier de mobile. Et puis, devant la charge des preuves, elle a fini par mettre les radiofréquences en catégorie 2B, donc cancérigène possible. Elle a encore du
avec
travail.
Avec le plomb, et vous avez dit quoi comme
le plomb, les vapeurs de diesel, dans la catégorie 2B. Vous avez la catégorie 2B, puis la catégorie 2A, cancérigène sûr. Ben ça, il faut encore qu'on travaille un peu, parce qu'on a déjà les éléments pour le mettre en 2A. Mais c'est déjà énorme que l'OMS ait bougé de position. Et l'OMS a bougé de position devant la masse des données scientifiques, et également devant le risque juridique. Notamment porté par Robin des Toits, puisque nous, on utilise le rapport de force clairement, et donc on en intervient au niveau juridique pour essayer de faire démonter des antennes, par exemple, et puis on accumule des cartouches pour pouvoir se retourner contre ceux qui ont mis en danger la santé publique.
Mais alors, les rapports de l'OMS, comment ça peut avoir une portée juridique ? C'est purement scientifique et...
Ah bah déjà, ça coupe les pattes clairement à tout le discours industriel et des pouvoirs publics qui disaient « Oui, mais regardez, l'OMS s'est pas prononcé, etc. » Tout le monde sait que l'OMS a eu un peu de retard, même sur l'amiante, etc. Donc là, elle a beaucoup de retard, mais elle commence à le rattraper en disant « Bon, oui, non, là, quand même, c'est quand même un cancérigène possible. » Et en plus, les études sur lesquelles se font l'OMS sont des études qui concernent des gens qui utilisaient le téléphone portable, par exemple, il y a 10 ans. Et les gros utilisateurs, ceux qui multiplient par 340% le risque de développer une tumeur cérébrale, ce sont des gens, des gros utilisateurs de l'époque, c'était une demi-heure par jour. Une demi-heure par jour, maintenant, on ne considère pas que c'est un gros utilisateur. Il y a des gens qui n'ont plus de ligne fixe, qui n'ont plus qu'un portable. Donc on a déjà largement développé, enfin, on est déjà dans des usages qui sont bien, bien plus larges que ceux qui permettaient d'avoir ces signaux.
Mais alors, est-ce que la nocivité a augmenté du fait de l'évolution des technologies, les smartphones notamment, enfin...
Oui, alors là, on utilise la technologie, enfin, une autre fréquence qui s'appelle la 3G, qui permet d'avoir le multimédia, et il y a une étude qui s'appelle Reflex, qui montre que ça casse l'ADN plus vite, et que ça va provoquer, au bout de trois quarts d'heure, d'exposition, c'est des sujets exposés en double aveugle, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas savoir qu'ils sont exposés, des troubles cognitifs, vomissements, vertiges, etc. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus une population qu'on appelle les électro-hypersensibles, EHS pour les intimes, qui développe une intolérance à ces émissions. Alors, si vous devenez, par exemple, allergique à la cacahuète, à la fraise, bon, vous arrêtez de manger des cacahuètes et des fraises. Mais quand vous êtes intolérant à ce type d'émission, il y en a partout. Vous faites quoi ? La vie devient un enfer. Donc, pour les gens les plus atteints, on a vu récemment, ça a défrayé les chroniques, des dames qui sont obligées de vivre dans des grottes, mais vous avez des gens qui perdent leur boulot, qui perdent leur famille, parce qu'ils ne peuvent plus vivre avec eux, tout simplement, qui errent au gré des territoires, dans les endroits les moins exposés, parce que là, leur vie n'est pas une torture, parce que c'est totalement handicapant pour eux. Donc voilà,
ils subissent quoi concrètement parlant en fait ?
Alors c'est une espèce d'effet d'écrasement. Ça les rend totalement inaptes. Donc c'est des maux de tête mais très particuliers. C'est une espèce d'effet d'étau. Ils ont des problèmes au niveau des yeux. Globalement, tout ce à quoi ils sont le plus sensibles, le plus fragiles, c'est par là que ça va arriver. Donc ça les rend totalement incapables dans certains cas de bouger. Il y en a certains qui vont tomber dans les pommes quand ils se trouvent trop exposés.
On sait que c'est les ondes qui font ça.
Alors, oui, on le sait. Il reste à accumuler suffisamment d'études, parce qu'on nous dit en face, oui, alors on a fait des tests de provocation, c'est-à-dire en gros on a mis un portable, et puis on a vu que ces gens ne répondaient pas au coup par coup. Mmh. Alors il y a deux choses, il y a ça, il y a aussi une étude qui a été mise en place par les pouvoirs publics pour les envoyer à l'hôpital Cochin, où on a très peur qu'on psychiatrise le problème, c'est-à-dire en gros on leur filerait des antidépresseurs, hop, ça irait un peu mieux, on dirait, bah voilà, vous voyez, finalement, c'est des dépressifs, c'est des gens qui ont des problèmes psychosomatiques. Le petit souci, c'est qu'il y a quand même des études qui ont porté sur des bovins, sur des embryons de poulet, et où on retrouve les mêmes problèmes. Donc il faudrait peut-être croire, c'est peut-être une des grandes découvertes du XXIe siècle, que les bovins ont des problèmes psychosomatiques. Jusqu'ici, on s'en était pas rendu compte.
Dans les élevages intensifs, je crois qu'ils ont des vrais problèmes qui ne sont pas forcément psychosomatiques. Mais c'est vrai que dans les débats récents à l'Assemblée nationale, à l'issue du rapport sur lequel a travaillé Annie Porcinoff, donc qui parlait notamment de cette question de l'hypersensibilité, il y a eu plusieurs interventions de députés, notamment d'un député médecin, qui mettait les maux et les souffrances des personnes électrosensibles sous le compte de mots imaginaires, quasiment. Hein. Donc c'est vrai qu'on est encore aujourd'hui dans un état de déni de ces souffrances-là.
Voilà, le discours officiel, c'est de dire, bon, alors ils ont une vraie souffrance, hein, c'est réel, mais c'est pas lié. Et c'est ça qui colle pas, parce qu'il y a quand même des endroits, il y a plusieurs États en Amérique, la Floride par exemple, qui reconnaissent le lien, clairement, et qui l'ont déclaré. Et là, en fait, le fond de la question, pourquoi on ne veut pas reconnaître les EHS ? Parce qu'on serait obligé d'adopter une réglementation qui limiterait, en fait, le pouvoir, tout simplement le rapport économique, les bénéfices économiques de l'industrie. Il faudrait avoir une vraie réglementation contraignante qui permette... Parce que quand même, la République, c'est égalité d'accès pour chacun. Et là, on a des gens qui sont clairement cabossés de la technologie. Donc, j'ai parlé des cas extrêmes. Il y a des gens qui vivent à peu près normalement, mais qui ne vont plus prendre les transports en commun, qui vont avoir des voisins qui collent le Wi-Fi, qui sont obligés d'aller causer avec eux parce que ce n'est pas possible. On voit des enfants qui deviennent électro-hypersensibles. Et en plus, on se retrouve dans une situation où, pour nous adultes, ces technologies sont arrivées il y a 15 ans. On était déjà formés. Là, pour les enfants qui naissent maintenant, ils sont exposés in utero, ils sont exposés pendant toute leur vie. Ce que ça va donner plus tard, on n'en sait rien. Alors là, on nous a dit, il y a une étude au niveau européen qui s'appelle MobiKids, qui va étudier le lien entre tumeur du cerveau et usage du téléphone portable chez les enfants. Cette étude est prévue pour dans 15 ans. Pendant ce temps-là, le commerce continue. C'est un peu les trucs qu'on voit sur les devantures pendant les travaux, le commerce continue. Et en plus, cette étude MobiKids a un partenaire intéressant, Orange. Voilà, on se retrouve sans arrêt toujours dans ce mélange des genres et c'est totalement anormal. Là, on va bientôt lancer la 4G. On nous explique la 4G, ça va être la 3G encore mieux, plus vite, etc. Le besoin n'est pas créé. Les gens n'ont pas encore la 4G. C'est, l'État vient juste de vendre les licences. Et encore, ils sont en train de se battre parce que la 4G, pour l'instant, a des interférences avec la TNT. Et nous, on dit, mais c'est pas normal, ça. C'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner. En pharmacie, on étudie l'impact d'une molécule, savoir si elle est dangereuse pour la santé, quels sont les effets secondaires, avant de la mettre sur le marché. Donc là, la 4G, il ne faut pas la lancer. Il faut d'abord faire des études d'impact sanitaire, et après, on la lance. Pour l'instant, les gens, le portable, ils ne sont pas dans le no man's land technologique, et loin de là. Donc, testons d'abord la 4G, plutôt que de prendre la population en cobaye, de créer le besoin, et après de nous dire on manque de recul. Et pendant ce temps-là, les travaux, enfin, le commerce continue.
Il y a un projet sur le plateau de Saclay, je crois, autour de la 4G.
Oui, il y a un projet sur le plateau de Saclay de tester la 4G. Il semble que le projet soit assez mal ficelé, c'est-à-dire que l'autorisation de faire cette expérimentation se termine en décembre. Et ils ne l'ont pas encore commencé. Et en plus, les élus locaux sur le plateau de Saclay sont en train de demander des explications. Enfin, veulent un tout petit peu de démocratie, parce qu'on est quand même un tout petit peu dans le totalitarisme technologique. Et ça a ralenti le projet. On espère que, à tout le moins, d'abord, les élus locaux sur place ont demandé les études d'impact sanitaire, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas comme d'habitude, de lancer le truc, de dire oui, alors technologiquement, on a ci, on a ça, et de se rendre compte a posteriori qu'il y a des gens qui sont malades à cause de ça.
Est-ce qu'au niveau européen, il y a des pays qui ont pris des décisions
Alors, au niveau européen, oui. Au niveau européen, c'est même déjà la prise de normes qui a été mise en place. C'est-à-dire que les gens qui ont mis les normes en place pour la téléphonie mobile sont des gens qui ont été dénoncés par les eurodéputés verts de la précédente mandature comme étant une émanation des industriels du secteur. Alors, je vais prendre un nom. faire un peu de name dropping, ça va être plus clair. Cet institut s'appelle l'ICNIRP, l'Institut International de Protection contre les Rayonnements Non Ionisants. C'est un peu technique, mais c'est là-dedans que tombent la téléphonie mobile et les technologies de communication sans fil. Il y a une personne qui représente la France dans cet institut qui s'appelle Bernard Verret. Bernard Verret est par ailleurs conseiller scientifique de Bouygues Télécom. Il appartient, vous tapez sur Bouygues Télécom, conseil scientifique, vous tombez sur cet homme-là. Il a mis en place des normes. Ces normes commencent, je vais être un tout petit peu technique, à 41 volts par mètre. Elles ne prennent en compte, parce que ces ondes sont dans la gamme des micro-ondes, que les effets dits thermiques. C'est-à-dire, en clair, on est protégé contre la cuisson. Effectivement, ça n'irait pas que les gens se mettent à cuire en utilisant leur téléphone portable. Mais concrètement, ça permet aux opérateurs de mettre des antennes un peu comme ils veulent. Et c'est un peu comme si on vous disait sur le plan de la conduite automobile, ne dépassez pas le 800 km/h sur autoroute. C'est pas possible, les moteurs ne peuvent pas y aller. Ce que les scientifiques indépendants, heureusement il y en a, ceux qui trouvent des choses d'ailleurs, ceux qui trouvent les effets sur la santé, disent, c'est que à 0,6 volts par mètre, vous voyez 41 versus 0,6 volts par mètre, on n'a pas constaté d'effet nocif pour la santé. Donc ce qui est réclamé, et récemment, à peu près au moment où l'OMS a mis les radiofréquences dans la catégorie 2B, le Conseil de l'Europe a dit qu'il faudrait adopter cette norme de 0,6 volts par mètre. Alors, au niveau européen, il y a des pays qui font mieux. Il y a eu des endroits où on est passé au 0,6 volts par mètre, mais c'était des endroits locaux. Il y a eu la Toscane en Italie, par exemple. Il y a eu également un endroit en Autriche, à Salzbourg, où on est passé au 0,6 volts par mètre. Et puis, très vite, ça a été dénoncé par les industriels. Et là, sur l'application du 0,6, ce qui s'est passé, c'est que au niveau de Robin des Toits, il y a eu des procédures qui ont conduit au démantèlement d'antennes. C'est en 2009, ça. Les opérateurs ont crié au secours parce que nous, on a communiqué au bazooka en disant bah, « Écoutez, les gars, on n'est pas contre la technologie, mais si vous ne voulez pas entendre qu'il faut passer au 0,6, on va faire démonter les antennes jusqu'à ce que vous acceptiez. » Donc, ils ont appelé le gouvernement au secours, qui a mis en place le Grenelle des ondes, parce que les ondes avaient été soigneusement sorties du Grenelle de l'environnement au préalable. Et on a saisi, nous, ce Grenelle des ondes, qui était en fait prévu pour être un enterrement de première classe sur notre problématique, pour nous empêcher d'aller en justice, on a saisi cette occasion pour demander une expérimentation. C'est-à-dire de tester ce fameux 0,6. Les opérateurs disaient « c'est pas possible », on disait « oui, c'est possible ». Et on est parti avec 6 villes au début qui étaient candidates, et assez rapidement, on a eu 70 villes candidates. Donc le gouvernement a lâché, il a dit « on fait cette expérimentation ». On a traîné pendant 2 ans, parce qu'il fallait que tout le monde soit d'accord, il fallait que ça marche un peu par consensus, qu'on négocie les protocoles, comment ça va se faire, etc. Et là, soit première quinzaine de décembre, soit deuxième quinzaine de janvier, on va enfin faire ces premières expérimentations.
Parce que le 0,6 dont vous parlez, ça nous permettrait quand même d'avoir un téléphone portable ?
Oui. Oui. Simplement, ça demande une reconfiguration du réseau.
D'accord.
Donc, en fait, on se met au niveau indiqué par les scientifiques indépendants qui n'ont pas constaté en deçà d'effets sanitaires délétères. Donc on est au seuil de précaution sanitaire et c'est ce qui est donc réclamé un peu partout dans tous les pays développés comme seuil d'exposition maximum à adopter.
D'accord, non, quelles seraient les conséquences si on allait au 0,6 ? Une couverture moindre ou
Il faut reconfigurer le réseau, c'est-à-dire plus faire comme on fait maintenant, mettre les antennes juste là où ça arrange les opérateurs pour qu'il y ait de la couverture, mais s'arranger pour qu'on ait des antennes avec une qualité de service correcte, parce que le but du 0,6 c'est non seulement de protéger les riverains d'antennes relais, que nous sommes tous, peu ou prou, mais également les utilisateurs. Souvent, on oppose le riverain d'antenne relais à celui qui utilise le portable, c'est les mêmes. Mmh. Et donc, ce que les gens veulent, c'est retrouver un moyen de contrôler leur exposition. Si on a des antennes qui n'exposent pas à plus de 0,6 et qu'on reconfigure le réseau, on protège également l'utilisateur de portable. Donc, il s'agit de protéger la santé publique.
D'accord. Alors, on va peut-être voir après, parce qu'on va faire une pause musicale, je crois, Alexandre, qu'en l'occurrence, même la justice a confirmé, il n'y a pas très longtemps, dans 3 arrêts du Conseil d'État, je crois, ce que finalement vous disiez à l'instant, que les opérateurs vont pouvoir installer où ils veulent leurs antennes. On a enlevé aux maires le pouvoir...
Alors, pas tout à fait. On va y revenir après la pause.
Mais on laisse un peu de suspense.
Ouais. D'accord. Et vous nous direz également ce qu'on peut faire aussi... concrètement chez nous et quel est le combat que vous menez au quotidien. Alors, c'est l'heure de notre... une question de Cyril à la technique. Non, c'est après. Alors, c'est l'heure de notre petite parenthèse musicale qui est toujours très agréable dans cette émission. Et aujourd'hui, nous recevons Lilister. Bonjour Lilister, tu peux t'approcher du micro pour parler un petit peu.
Bonjour.
Ça va ?
Oui, merci de m'inviter.
Eh bien écoute, c'est un plaisir. Alors,
je suis ravie.
Comme souvent dans cette émission, je n'ai pas eu tellement de temps de me renseigner sur vous. Donc vous allez nous parler de vous déjà. Vous êtes une jeune artiste parisienne.
Oui, alors...
Enfin jeune, je veux dire, jeune.
Oui, on peut dire ça, hein. On peut dire que
mais
je suis jeune.
Arrête de me taper, Laurence, écoute.
J'ai...
Ça, c'est des choses dans ce studio.
Je voulais dire jeune, mais en même temps, c'est pas jeune par la carrière, parce que j'ai quand même vu qu'il y avait des choses, des albums.
Ah non, il n'y en a qu'un seul.
Il n'y a qu'un seul album.
Il n'y a qu'un seul album qui est sorti en 2010, l'année dernière. C'est le premier.
D'accord, parce que j'ai vu plusieurs choses sur Deezer, alors...
Alors en fait, oui, il y a mon album qui est sorti. Ensuite, j'ai participé à d'autres projets.
Qui s'appelle l'album ?
Qui s'appelle La Castafiore.
La Castafiore, voilà.
Voilà. Et puis, on a fini notre tournée fin de cet été. Ça s'est fini au Japon.
Très bien.
Donc ça a été superbe. On a pu interpréter une chanson en japonais sur les événements de Fukushima. Donc ça a été une très belle rencontre. Et puis voilà, et puis là, moi, je repars, j'attaque l'écriture de mon second album.
D'accord.
Voilà, donc en ce moment, je suis plutôt dans mes papiers, dans mes stylos, dans les notes et tout ça.
D'accord.
Donc là, je suis venue vous chanter une...
On entend de la musique, là, c'est...
On entend des chœurs, une chorale.
Ah, c'est derrière, il y a une chorale derrière, ok, d'accord. Bon. Alors, il faut toujours cataloguer un peu, mais c'est surtout pour donner une idée aux auditeurs de quel genre de musique vous faites. C'est de la chanson petit peu intimiste quand même.
On dit que c'est de la chanson française.
La chanson française,
voilà,
d'accord.
C'est ma chanson.
Avec quand même des titres en anglais.
Alors,
et notamment une reprise de Relax de Mika avec un très beau clip sur Internet.
Ouais, sur l'album, là, il y avait la seule chanson en anglais, c'était la reprise de...
Ah, c'était la seule chanson en anglais, d'accord.
Ouais. Okay. J'écris pas en anglais, en fait. J'écris en français.
D'accord.
Là, sur le premier album, j'étais auteur. Et sur le deuxième, j'écris avec d'autres... Je co-écris, en fait, avec d'autres auteurs que j'ai rencontrés. Et là, j'ai découvert, en fait, la co-écriture pendant quelques séminaires, en fait. J'ai fait des rencontres.
D'accord.
Et l'exercice m'a beaucoup plu. Et donc, voilà, sur ce deuxième album, je m'embarque sur les chemins de la co-écriture. C'est super.
C'est intéressant.
Voilà. Mais donc, du coup, j'écris pas en anglais. Si, j'ai peut-être une chanson qui sera en anglais, que je fais en concert.
D'accord. Et là, vous allez nous jouer quoi, en fait, en acoustique ?
Et là, je vais vous chanter toute nouvelle chanson qui s'appelle « Comme va la vie ».
Comme va la vie.
Voilà.
D'accord. Qui nous parle de... qui parle de quoi ?
Eh bien, je vous laisse découvrir.
D'accord. Eh bien, écoute, on vous écoute, Lilister, en direct.
Que de suspense dans cette émission.
Sur Fréquence Paris Pluriel, Zoom Écologie, troisième jeudi. Cyril, il y a une petite question, qu'on bouge un petit peu plus le micro, c'est
alors,
ça ?
Peut-être, ouais.
Tu chantes comme tu veux, tu n'as pas la peine de trop t'approcher.
Cyril a envie de parler ce soir, je le sens.
Voilà, Cyril, c'est notre bienfaiteur à la technique derrière. Là.
Un micro devant la guitare, un micro devant la voix.
Ah. Oh, c'est magique.
Alors, on va mettre celui-ci là. Est-ce que c'est assez près comme ça ?
C'est du live.
Comme à la maison.
Comme va la vie, comme vont les envies, des sentiments si différents à l'amour qui jure toujours un, deux, trois, et puis s'en va. Me revient en novembre le mal de m'éprendre. C'est une coquetterie pour me sauver la vie. Moi j'avais cru comprendre, son cœur semblait apprendre. Il parlait de partir, de Venise, d'avenir. De lui j'ai pu entendre tant de poèmes tendres, promesses symphoniques, des caresses diaboliques. Comme va la vie, comme vont les envies, des sentiments si différents à l'amour qui jure toujours un, deux, trois, et puis s'en va. Il faut
faut souvent se rendre à l'évidence et prendre ce qui tombe sous la main pour s'en faire son destin. Il pleuvait à pierre fendre, ah, je pouvais pas me défendre. J'ai ripé sous la pluie, au matin il est parti. J'ai brûlé tout décembre, mon corps était en cendres. Quelle la mélancolie aux portes de l'oubli. Comme va la vie, comme vont les envies des sentiments si différents à l'amour qui jure toujours. Et puis un, et puis deux, et trois, et puis s'en va. J'avais fini d'attendre quand ce soir de novembre, des excuses, des pleurs, il me rendit son cœur. Ah, je pouvais me détendre, enfin fini d'attendre. Quelle joie, quel bonheur, ah bon? Mais à quelle heure, non, ne va pas te méprendre de l'amour à revendre, j'en aimais. Mais l'Italie, non, ne me fait plus envie. Comme va ma vie, comme vont mes envies, des sentiments si différents à l'amour qui jure toujours. Un, deux, trois, et puis...
Merci Lily. Je précise que j'ai rencontré Lily au Lavomatic Tour, dont je fais un peu la publicité dans chaque émission, mais qui est décidément une mine de talent. Lavomatic Tour qui est un... Tu te souviens Lily?
Ouais.
D'accord. qui est une initiative de notre invité de l'année dernière qui s'appelait Lily Gou et qui organise des concerts le premier mercredi de chaque mois sur... dans les Lavomatiques de Paris, donc c'est une initiative originale. On vous reverra dans les Lavomatiques Tours, Lily Ster ou...
Oui, j'aimerais bien, mais ça a redémarré, j'ai pas eu le temps d'y aller là, mais...
D'accord, c'est le premier mercredi de chaque mois, hein, tous les mois.
Oui, c'est ça, ouais.
D'accord.
Tous les premiers mercredis.
Eh ben merci en tout cas pour ce moment très agréable, et puis on écoutera un deuxième titre, comme dans chaque émission, en version CD tout à l'heure, ce sera quel titre?
Ce sera une chanson qui s'appelle Les 4 saisons.
Les 4 saisons, très bien. On va revenir à notre débat, les amis.
Alors on était à la fausse information que je diffusais, que Étienne Sandrier a
contesté dans ton oreillette.
A un peu contesté dans mon oreillette. En gros, le Conseil d'État a pris une décision le 26 octobre 2011, là maintenant. Quelle était-elle?
Alors, ce qui se passait en fait, c'est qu'il y a de plus en plus d'élus locaux, abandonnés par l'État en fait, hein, et qui se retrouvent pris entre les opérateurs et la population. Et ils n'ont pas vraiment les moyens d'aider la population. Tout est fait au niveau de l'État pour qu'ils se débrouillent. C'est eux qui gèrent, ils ont les mains dans le cambouis, mais débrouillez-vous les gars. Donc il y a de plus en plus de maires qui faisaient et qui continuent à faire tout ce qu'ils peuvent en faveur de la population, notamment en prenant des arrêtés. Sur
Parce que le maire a quand même un pouvoir de police, etc., qui lui permet de réglementer.
Voilà. Et donc le Conseil d'État a été saisi, enfin, ou il s'est saisi d'ailleurs. Et là, c'est assez amusant, puisque, enfin, c'est amusant si on veut, le maître des requêtes, c'est la personne qui a plaidé pour renier le pouvoir des maires, et quelqu'un qui est proche de Bouygues Télécom. Youpi. Il y a un article du Canard Enchaîné là-dessus qui s'appelle « Une antenne relais au Conseil d'État ». Et donc, effectivement, le Conseil d'État rogne la démocratie locale, rogne le pouvoir des maires. Donc, une fois que la décision est tombée, alors déjà, nous, on a sorti une lettre ouverte où on interpellait la présidence du Conseil d'État en disant bah, il faudrait peut-être refaire les délibérations, là, c'est entaché de conflits d'intérêts. On a eu une réponse en disant oui, mais c'était il y a longtemps, donc ça compte plus. Bon, on n'est pas très convaincus. Et puis, comme par hasard, évidemment, le but du jeu, c'est super, les opérateurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Et les maires non plus, enfin, c'est ce qui était. C'était si on ne fouille pas, c'est ce qui apparaît, ils n'ont plus leur pouvoir de police générale.
Mais les maires peuvent quand même refuser un permis de conduire.
Un permis de construire.
De conduire. Ouais, ils pourraient aussi, mais bon, ils ne peuvent pas.
Ouais, conduire une maison.
Ils peuvent, faire, voilà. Ils peuvent faire différentes choses. Ils peuvent faire différentes choses. Donc, dès que cette décision est sortie, on a fait procéder à une étude juridique qu'on a balancée, qu'on a rendue publique, qu'on a balancée à tous les maires. Et en fait, ils peuvent faire encore beaucoup de choses, les maires, s'ils veulent. D'abord, le Conseil d'État... c'est un peu mélanger les crayons, je suis désolé de le dire, c'est-à-dire qu'il il dit qu'en matière sanitaire sont compétents des agences qui en fait dépendent du ministère de l'Industrie. Donc ces agences sont là pour réguler la façon dont on utilise les fréquences, mais il y a personne, zéro personne qui a un diplôme de biologie. Ils ne dépendent absolument pas du ministère de la Santé. Donc ces gens-là sont ipso facto devenus compétents alors qu'ils obtiennent cette compétence de nulle part. Ils sont incapables de répondre à cette... demande. Mais les maires peuvent effectivement appliquer le principe de précaution. Ils peuvent, dans des cas exceptionnels, ce qui laisse une certaine marge d'appréciation, dire que là, le principe de précaution s'applique. Ils peuvent effectivement intervenir sur les permis de construire. Le Conseil d'État, dans sa formulation, ne ferme pas la porte au fait que les normes soient obsolètes. C'est-à-dire que, quand même, protéger la santé publique ressort du principe de précaution. Donc il reste encore des tas de choses que les maires peuvent faire et on les engage à le faire et on va continuer à essayer de les faire se rassembler entre eux pour pouvoir opposer un rapport de force sain par rapport aux opérateurs.
Il y a une association des maires de France, c'est quelque chose qui...
Par exemple, qui a sorti un communiqué en disant c'est pas bon, on n'a pas les moyens de faire ce qu'attend de nous la population, et donc a demandé à l'État de s'engager, ce que l'État n'a toujours pas fait. Donc de toute façon, et puis en plus, le Conseil d'État s'exprime dans le vide des textes. Donc il suffit que de nouveaux textes apparaissent, il suffit que la loi change, et on espère qu'on va obtenir ça à force, pour que cette décision soit caduque.
Donc c'est uniquement la jurisprudence qui fait évoluer le droit en matière de...
Toujours, bien sûr, heureusement.
Et alors vous, l'action de votre association, concrètement, vous pouvez faire quoi et vous faites quoi?
En fait, souvent les associations n'aiment pas dire ça, mais on est un lobby. Il y a un lobby en face, économique. Nous, on est un lobby ou un contre-lobby, mais finalement, c'en est un aussi. On a un groupe de pression. Sauf que nous, on est tous bénévoles, donc on n'est pas pour des intérêts privés, on est pour l'intérêt général. Donc, ce qu'on fait, c'est on rend les choses médiatiques. Mm-hmm. On sait plutôt bien faire ça. On a des contacts.
Mais vous avez du monde un peu avez... Parce que Robin Desbois, il était tout seul, mais vous êtes...
Robin Desbois, oui, ça commence à être pas mal de gens. Donc, on sensibilise des politiques. Il y a des maires qui ont fait de plus en plus, qui font encore de plus en plus de choses. On donne de l'information via les médias, les politiques. On aide les gens au cas par cas, puisqu'il y a des gens qui se retrouvent avec un projet d'installation ou des antennes qui ont été installées en catimini. Donc on les aide, on participe aux réunions publiques, puisque nous on parle la langue des opérateurs, les gens sont là, on leur dit vous ne causez pas technique, vous n'êtes pas capable de nous répondre. On est là pour faire la traduction.
D'accord.
Et pour amener les éléments que les opérateurs préféraient ne pas voir mis sur la table.
Mais vous avez les moyens de travailler un peu? Vous avez des gens disponibles?
On fait ça avec des bénévoles, ouais. On peut dire que les permanents, entre guillemets, parce que ça reste bénévole, de Robin des Toits, c'est une trentaine de personnes.
D'accord.
Pour vous faire une idée, sur Greenpeace, c'est 56 personnes. Voilà, donc rien qu'avec des bénévoles, on arrive à avoir une force de frappe considérable, et on est même sollicité maintenant en Europe.
Alors concrètement,
il y a une manifestation. Pardon.
Pardon.
Il faut penser à l'heure. Il y a une manifestation demain. Juste à l'heure parce qu'on a eu
à Bruxelles, c'est ça.
Elle a eu lieu hier en fait.
Ah, c'était hier.
Ouais, c'était une manif symbolique parce que comme l'OMS a classé les radiofréquences en 2B, la Commission européenne a réuni quelques scientifiques mais monocolores qui ont tous des liens d'intérêt avec l'industrie. Pour nous sortir une petite résolution sur le sujet et qui évidemment va plutôt aller en faveur de l'industrie. Donc on a protesté contre ça avec d'autres associations européennes.
On va faire une deuxième pause parce que Sophie a travaillé cette semaine.
Eh oui.
Tu veux nous présenter l'interview?
Je suis partie au Grand Parquet, c'est une salle de spectacle, de théâtre qui se trouve Gare du Nord.
Il y a Cyril qui essaie de nous dire quelque chose à la technique, c'est compliqué.
Ouais, moi j'avais une petite question. C'est peut-être un peu compliqué de faire ça, dire ça rapide. C'est sur le 0,6 vol par mètre. Qu'est-ce que ça implique techniquement? Est-ce qu'il faut plus d'antennes? Est-ce que ça change quelque chose sur la couverture?
Dans certains cas, il faudra plus d'antennes. Bien sûr, par exemple, à l'heure actuelle, dans les campagnes, vous avez une antenne qui tous les 10 km à peu près. Donc les gens qui sont proches de ces antennes sont très exposés. Et quand vous téléphonez, vous, et vous êtes loin de ces antennes, votre téléphone va émettre plus pour rejoindre l'antenne et expose l'utilisateur plus. Donc ce qu'il faut, c'est raisonner et avoir une configuration du réseau.
Et dans les plus homogène.
On l'aura, voilà, de manière à prendre en compte tous ces problèmes de santé publique. Pour l'instant, on essaye artificiellement de dire « mais non, ça compte pas, c'est pas prouvé, etc. » D'ailleurs, si c'était prouvé, on se trouverait dans le principe, enfin, c'était prouvé, ça l'est, hein, mais si c'était reconnu au niveau des pouvoirs publics, on se trouverait à ce moment-là dans la prévention. Parce que ce qu'on nous dit, c'est « tant que c'est pas prouvé, le principe de précaution s'applique pas. » C'est un peu comme si on vous disait « la ceinture de sécurité, on va la mettre après l'accident. » C'est pas très opérant.
Alors, est-ce que la mairie de Paris aurait pas pu dire, plutôt que refuser 32 nouvelles antennes relais, on accepte des nouvelles antennes relais si vous passez à 06?
Bah, c'est un peu ça qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un vœu au Conseil de Paris le 12 juillet dernier, avec pour objectif d'avoir une charte à Paris avec le 06. C'est-à-dire que là, la ville se donnait les moyens de faire quelque chose en attendant une loi. Donc de passer une charte, il y en avait une auparavant, de passer une charte où on aurait le 06. Les opérateurs sont venus discuter plusieurs fois, puis à un moment, la mairie leur a dit ben, « Ok, maintenant, vous venez le prochain coup avec des propositions. » Ils sont venus sans proposition. Et la ville de Paris, qui est, donc, qui est quand même une grosse, la plus grosse commune, et qui a en plus une emprise domaniale, c'est-à-dire qu'elle est elle-même bailleur d'antennes relais. Elle a des immeubles à elle, sur lesquels il y a des antennes relais. Elle dit « Bon, on ne va plus reconduire les baux, donc vous n'aurez plus le droit de mettre vos antennes, d'en mettre plus. » Et par ailleurs, on va explorer les voies juridiques de démanteler les antennes présentes. Donc c'est la catastrophe pour les opérateurs. Ça. Donc on engage la ville de Paris à rester là-dessus pour obtenir enfin ce fameux 06 qui est tout à fait applicable.
Sophie, on revient sur
on
le
refait
sujet.
La pause culturelle, on aura tout petit peu de temps après, juste conclure.
Précaution d'usage, ouais.
Exactement. Puis concrètement, ce qu'on peut faire, j'ai une antenne relais en face de chez moi, comment est-ce que je vous contacte, etc.
Ah, ok,
en attendant, la petite pause culturelle était plutôt sympa parce que je suis allée dans le 18e, à côté de la Gare du Nord, au Grand Parquet. C'est une salle de théâtre. Je suis allée rencontrer Nicolas Lambert, qui fait un spectacle qui s'appelle « Avenir radieux, une fiction française ». Ça parle de nucléaire. C'est très, très bien fait. Et je vous invite à écouter le reportage que j'ai fait aujourd'hui.
C'est avec
Nicolas
plaisir.
Lambert, on vous connaissait pour avoir fait une pièce qui s'appelle « Elf, la pompe à Afrique ». C'était une pièce sur l'affaire Elf. Vous étiez allé pendant tout le procès prendre des notes et après vous en aviez tiré une pièce de théâtre. Ça, c'était pas très loin de l'enquête journalistique d'une certaine façon, c'est bien ça?
Oui, d'autant qu'en fait là, à l'époque, j'avais en réalité couvert plusieurs procès dans le même état d'esprit. En voulant essayer de faire un travail sur le fonctionnement de la Ve République. Donc j'avais assisté à l'époque au procès de Juppé, au procès des marchés publics d'Île-de-France, au procès Elf, pour essayer de voir s'il y avait moyen d'en faire soit une émission de radio, puisqu'il se trouve que je faisais quand même quelques petites choses avec FPP à l'époque, et surtout dans le cadre de la fréquence éphémère d'Antoine Chao. Et en même temps, en parallèle, je faisais ce travail théâtral, et au fur et à mesure du boulot, je me suis dit, mais il y a moyen de faire un documentaire pour la radio au théâtre. Et inversement, de faire une pièce de théâtre qui soit un documentaire radiophonique. Comment on fait pour mêler tout ça? Et je me suis arrêté sur ce principe-là, autour de cet axe qu'est la Ve République, notre bleu-blanc-rouge. Et à l'époque, j'avais cette idée de faire en 3 ans 3 spectacles, un sur le pétrole, un sur le nucléaire, un sur l'armement. C'était vraiment un bleu-blanc-rouge que je voulais faire. Sauf qu'après, je me suis rendu compte de la réalité théâtrale de notre pays. Et c'était pas simple de s'occuper d'une pièce déjà. Donc j'ai voulu m'en occuper jusqu'au bout. J'avais vraiment envie que ce soit des spectacles qui soient vus. J'ai un peu l'habitude de faire des one-shots ou des choses qui sont... Voilà, qui passe comme ça, comme on fait régulièrement nous avec la compagnie à la Java. Un lundi par mois, on fait une revue, la NRV, tous les mois. Une revue d'actualité, voilà, mais avec plein de... Voilà, avec tous les outils qu'on peut avoir de la scène ou de la radio ou de la vidéo. Enfin, on projette des émissions, des petits bouts d'émissions de radio, par exemple, dans cette revue. On projette aussi des vidéos et on fait des petits one-shots théâtraux. Ou danse, ou chanson, enfin peu importe, mais voilà, on se sert comme ça de choses qui sont pour de l'éphémère. Et là, je me suis dit, mais ce truc-là, la façon dont fonctionne notre République sur la France-Afrique, j'ai pas envie qu'on ne l'entende pas. J'ai envie vraiment que ce soit vu, entendu. Et je me suis acharné pendant 2 ans à essayer de faire en sorte que ce soit vu. Alors la première année, je l'ai très peu joué. Puis au fur et à mesure, ça c'est... Voilà, ça, c'est... il y a quelque chose, un bouche à oreille qui s'est mis en place. Et comme c'est un spectacle où je suis tout seul, bah, ça ne coûte rien pour moi de le monter. Je suis tout seul, plus un musicien, plus un technicien. Donc à chaque fois, il faut juste trouver les bonnes personnes, musiciennes et techniciens, pour le jouer. Et ça permet d'avoir une économie très, très légère.
Alors après, il faut aussi trouver les bonnes salles, j'imagine.
Ouais, trouver les bonnes salles.
Parce que c'est quand même des sujets, voilà, c'est loin d'être de la fiction.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment des documentaires.
Donc, est-ce qu'il y a des blocages ?
Ah ben, dans l'institutionnel, ça n'a pas été tout à fait très simple. Mais par contre, dans le milieu associatif et militant, il y a eu un écho certain. Et j'ai pu, du coup, avec ce documentaire sur deux pattes, me pointer dans des granges au fin fond de la Picardie, dans des cinémas dans le fin fond du Tarn, n'importe où. Et je me pointais avec un billet Prums sur le dos et un bidon sur le ventre pour raconter mon histoire. Et au fur et à mesure de le jouer, ben, j'avais pas le temps de bosser le nucléaire ni l'armement. Donc j'ai dû m'arrêter à un moment donné. J'ai tourné finalement pas mal jusqu'en 2008. Là, j'ai arrêté. J'ai eu une fille aussi. Ça aide aussi à prendre la décision de s'arrêter. Je me suis occupé de faire père de famille et pondeur de spectacle. Et là, le spectacle est prêt. Donc, je retourne sur les routes là maintenant avec les deux spectacles. Un sur le pétrole, donc sur en réalité les relations de notre République avec l'Afrique. Et en gros, aujourd'hui, ça permet de piger l'affaire Karachi, hein, par exemple. On est exactement dans cette problématique-là. Et un deuxième spectacle sur le nucléaire. Alors, quand j'ai commencé à écrire ce spectacle-là et quand j'ai commencé à le répéter, on me disait « Mais pourquoi tu veux faire un truc sur le nucléaire ?» Et il se trouve que quand j'ai commencé à le présenter la première fois, j'ai présenté juste le texte ici, au Grand Parquet, dans le 18e, au métro Chapelle, un jour. Et c'était le mois où à Fukushima, 3 réacteurs venaient de péter suite, non pas au tsunami, comme on a essayé de le faire croire pendant un petit bout de temps, mais bien, bel et bien, à cause du séisme. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est mis à regarder le nucléaire avec un autre œil, ce qui, du coup, me permet du coup, de proposer un regard qui est le mien sur la façon dont on nous a refugué en France le nucléaire. Qu'est-ce que c'est que ce fait historique et exemplaire mondial qui est qu'un pays dépendent à ce point du nucléaire et des nucléocrates. Mais quand même, aujourd'hui, on a le droit en France d'avoir une opinion sur le nucléaire, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'en février dernier. En février dernier, il n'était pas question qu'on puisse mettre en cause le dogme, la croyance que l'on a dans cette énergie.
Complètement dogmatique, tout à fait. Donc la pièce, j'en ai vu des petits bouts en avant-première, j'ai eu une chance juste énorme. Mais elle commence en vrai jeudi, elle commence ce soir, aujourd'hui, au Grand Parquet, et elle se poursuit jusqu'au 18 décembre.
C'est ça, oui, on va jouer pendant 5 semaines, là, en alternance, Elf et Avenir Radieux. Avenir Radieux, une fission française, c'est le titre du spectacle, et l'autre s'appelle Elf, la pompe Afrique.
Et c'est intéressant d'avoir les deux volets, en attendant le troisième qui sera sur l'armement.
Voilà, on a quelque chose qui commence à se tisser, là, qui permet de décrypter pas mal de choses. Je peux vous livrer ce scoop, puisque figurez-vous que l'homme du nucléaire en France, c'est précisément l'homme qui va créer Elf Aquitaine dans les années 60 ensuite, Pierre Guillaumat. Pierre Guillaumat qui est un homme de l'ombre, un proche de... Aujourd'hui, ce serait un proche de Bourgie, hein, par exemple. Mmh. C'est un proche de Jacques Faucard. Et qui a
des hommes de l'ombre.
Oui, c'est ça. Ouais. Qui dirige ce pays en dehors de tout contrôle démocratique, parlementaire ou gouvernemental. Le gouvernement ne savait rien de ce qui se passait. Et cette histoire-là, c'est celle de notre nucléaire français dans les années 50, puis dans les années 70, et pas spécifiquement sous De Gaulle. contrairement à ce que la légende de la Ve République essaye de le colporter. Effectivement, là, l'idée, c'est de me servir de la même grammaire, c'est-à-dire moi, je suis celui qui... Voilà, je viens du public et j'essaye d'aller au fond, comme je peux, d'un problème et de revenir vers le public pour lui dire, bon ben voilà, j'en suis là, j'ai compris ça et je vous transmets un certain nombre de faits que je juxtapose et je vous propose d'avoir l'opinion que vous voulez là-dessus. Moi, je suis quand même allé chercher un certain nombre de faits qui me semblent être montrables et utiles d'avoir avant de se laisser aller à avoir des opinions parfois dictées par des communications habiles.
Alors, petite question complémentaire, on en aura fini. Pourquoi le faire au théâtre et puis pas dans les médias ?
Parce que je pense que c'est un média très convenable, le théâtre. Je pense que ça me semble intéressant d'avoir quelqu'un qui est le seul média. Je vais chercher l'information et je la ramène. Il n'y a pas de filtre autre que ma chair. Voilà. Et je pense que en invitant quelqu'un à venir s'asseoir, et j'ai la chance d'avoir cette possibilité, quelqu'un qui pendant 2 heures va se retrouver sans pouvoir zapper, on reste en discussion tous les deux, moi sur scène et vous dans votre écoute, et après on peut poursuivre en plus la discussion. On a un théâtre qui permet ça, de rester après à discuter, boire des coups si on veut. Et ça permet du coup d'avoir une attention qui est difficile à avoir ailleurs. Voilà.
Et 2 heures de One Man Show, c'est juste énorme.
L'idée, c'était pour moi d'être non pas prêt pour Fukushima, évidemment, mais en tout cas d'être prêt pour ces élections et essayer d'être que cette question-là fasse partie de l'interrogation qu'on pourrait avoir lorsqu'on demande à des citoyens de s'exprimer. Même si je ne pense pas que ce soit en s'exprimant sur des gens qui vont nous représenter que ça va servir forcément à quelque chose, mais quand même qu'il y ait cette arrière-pensée-là. Et il me semble que le nucléaire peut faire partie des questions que le peuple, sur lesquelles le peuple peut réfléchir et peut se prononcer. Oui. Oui, parce qu'on ne lui demande pas de se prononcer.
Tout à fait. Ouais. C'est bien ce que vous démontrez finalement.
Malheureusement, oui.
Écoutez, rendez-vous du 17 novembre au 18 décembre au Grand Parquet.
Mais avec plaisir.
Et merci à vous.
Merci.
Donc, comme vous l'avez compris, je suis fan et je vous invite à y aller.
Merci Sophie. On a un peu de temps pour conclure cette émission. On va rester sur Étienne. Vous avez 4 conseils à nous donner.
Alors, d'abord, c'est bientôt Noël. N'achetez pas de portable à vos enfants. Les enfants sont beaucoup plus sensibles. Donc, c'est le contraire d'une bonne idée. D'ailleurs, il y a une loi qui a été votée en juillet 2010. Qui interdit le commerce de portables et d'objets électroniques pour les enfants. Elle n'est toujours pas promulguée. Vive la joie, il faut pas arrêter le commerce. Comme c'est bizarre. Donc, pas les enfants, les femmes enceintes ne devraient pas utiliser le téléphone portable. Quand vous utilisez le téléphone portable, c'est avec une oreillette à fil, pas celle sans fil. Vous vous arrangez pour que le fil vous touche, ça fait masse. C'est-à-dire que ça fait un peu comme une prise à la terre, ça évite que l'émission monte directement à la tête. Vous téléphonez dans le moins possible, hein, dans des endroits où vous recevez bien, pas les voitures, pas les trains, pas tout ce qui est boîte en métal, ça fait cage de Faraday. Donc non seulement vous exposez beaucoup, mais vous exposez tous les copains à côté. On peut parler de téléphonisme passif. Voilà, il faut couper le Wi-Fi. En plus, ça rame, c'est pas terrible sur le plan technologique. Il faut être... le bon truc, c'est la fibre optique et passer par le fil. Vous voulez être en bonne santé et être à la pointe, restez branché, perdez pas le fil. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Faites attention, tout ce que j'ai dit s'applique aussi au DECT, le téléphone sans fil que les gens ont chez eux. Chez soi, il faut un téléphone avec fil.
Très bien, merci. Voilà. Et c'était donc Étienne Sandrier pour l'association Robin des Toits. Je renvoie à votre site qui est robindestoits.org où évidemment vous retrouvez toutes ces informations et bien plus parce que c'est presque un portail finalement.
Oui, c'est devenu une espèce de site de référence, les journalistes y vont.
Je rappelle que vous pourrez écouter cette émission demain, vendredi, entre 11h et midi, que vous la retrouverez demain ou dans quelques jours sur zoom-ecologie.net, que vous pouvez nous contacter par mail zoomecolo3@gmail.com et même par courrier. On a découvert qu'on avait une boîte aux lettres tout à l'heure, donc Zoom Écologie, 1 rue de la Solidarité dans le 19e. Merci à tous nos invités, donc Étienne Sandrier et Lily Ster. C'était le Zoom Écologie le 3e jeudi avec Sophie, Laurence, Cyril à la technique, merci encore. Lilister, on peut te retrouver sur Facebook, hein, pas de site, mais sur le Facebook. Et on va écouter, pour terminer, une chanson du dernier album qui s'appelle Les 4 saisons. Merci et à jeudi, on se retrouve le 15 décembre.
Je suis le printemps, fragile, je ne sais pas vraiment que le temps file. Je suis personnage, notre amour tremble, rien ne me protège, on se ressent. Je suis le plein été, notre amour est beauté, pleine de vie, je suis une fleur, je suis ton fleur.
Politiquement.